Pas de raison pour qu'on les oublie. Les bons yeux, les beaux jours ont passé. Ce que c'est beau, la photographie. Le soleil, on est prisonnier.
Il est 10h29, vous écoutez France Culture, vous êtes sur les nouveaux chemins de la connaissance où nous parlons du moi, toute cette semaine le moi dans tous ses états, et aujourd'hui le moi dans l'autoportrait, l'autoportrait de Rembrandt, en particulier avec le philosophe Michel Guérin, auteur d'un très bel essai intitulé La peinture effarée, Rembrandt et l'autoportrait, qu'on trouve aux éditions de la Transparence. Michel Guérin, lorsqu'on entend Picasso, c'est interprété par Anna Mouglalis dans ses conversations avec Brassailles, hein, qui date de 64, dire qu'il aimerait parfois faire un trou dans une glace afin que l'objectif de son appareil photo puisse saisir son visage le plus intime à l'improviste. Il pose toute la question de, non seulement de l'intention de l'artiste lorsqu'il se peint, mais également du pouvoir de celui-ci. Suffit-il de vouloir saisir l'étonnement fondamental hein, qui illumine notre être pour pouvoir le faire? Ou bien est-ce que celui-ci surgit à son insu? En d'autres termes, est-ce que Rembrandt, dans l'autoportrait que vous décrivez dans votre livre, est-ce que le résultat correspond au projet de l'artiste lui-même? Voulait-il se peindre ainsi, ou bien s'est-il découvert ainsi après s'être peint?
Je pense que la volonté créatrice, ce qu'on pourrait appeler l'intention en art, l'intention plastique peut-être, a comme caractéristique paradoxale qu'elle est a posteriori. D'habitude, lorsqu'on parle d'intention, on pense qu'on a une idée dans la conscience et qu'ensuite on la réalise. Donc que l'intention est première et que c'est elle qui va dicter les opérations qui vont conduire à la réaliser. Or, je crois que tous les artistes, tous les arts, nous montrent exactement l'inverse. Il y a un très grand texte là-dessus. Je dois quand même le citer. Il me vient à l'esprit comme ça, ce n'était pas prévu, mais tout de même, à tout seigneur, tout honneur, c'est l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci, de Paul Valéry, qu'il a écrit tout au long de sa vie. Il y a deux écrits qui ont été écrits tout au long de la vie de l'auteur. C'est le Faust de Goethe, mais Valéry, après tout, a aussi écrit un Faust. Et puis le Léonard, qu'il a repris sans arrêt. Et qu'est-ce qu'il dit dans le Léonard? Il dit que, précisément, l'intention artistique, c'est quelque chose qui fait boule de neige, qui est ouverte, qui est poreuse par rapport à tous les événements, y compris les tout petits événements de rien du tout qui peuvent intervenir dans la création et qui sont incorporés, qui sont agglutinés dans le processus même de cette révélation, de cette création, en tant qu'elle est révélatrice justement de la véritable intention. L'intention est a posteriori. Et c'est ça que veut dire Picasso. Mais en même temps, ça révèle quoi? Ça révèle un extraordinaire idéal, ou un idéal limite, c'est-à-dire l'idéal acheiropoïète. C'est-à-dire cet idéal d'une image qui ne serait pas faite de main d'homme, c'est ça que ça veut dire. Or l'image qui n'est pas faite de main d'homme, c'est une théorie religieuse, c'est une théorie chrétienne qui renvoie au tout premier temps des débats entre iconophiles et iconoclastes et qui est fondée sur l'idée d'une image naturelle. Il y a une image naturelle, c'est-à-dire une image qui n'a pas à être élaborée trait pour trait, pas à pas, avec les efforts et le temps et les erreurs que ça suppose, mais une image qui rend immédiatement et qui rend avec une justesse infinie la réalité elle-même et le modèle, parce qu'elle ne fait qu'un avec le modèle, comme le Fils ne fait qu'un avec le Père. C'est ça qu'on appelle l'image acheiropoïète. C'est l'image de la vera icona, qu'on a cru trouver dans le fameux linceul de Turin, lorsqu'un photographe, c'est pour ça que j'en parle, en 1898, si ma mémoire est bonne, c'est Marie-Josée Mondezin qui relate tout cela, a photographié le visage qui était sur le linceul de Turin. Et on a cru, les chrétiens en tout cas, les gens de foi profonde, ont cru pendant longtemps qu'il s'agissait du vrai visage du Christ, jusqu'à ce qu'on découvre au XIIIe ou XIVe siècle qu'en réalité ce visage avait été peint sur la toile au XIIIe ou au XIVe siècle. Vous savez que Zurbaran, d'ailleurs le peintre Zurbaran, a peint un saint don, c'est-à-dire cette toile de lin très fine sur lequel le visage du Christ était supposé avoir été, s'être en quelque sorte imprimé, si j'ose dire, de lui-même, du fait de Véronique qui avait recueilli ainsi la trace divine. Donc cette idée d'une image achéiropoïète, c'est-à-dire une image qui n'est pas faite de main d'homme, elle hante littéralement toute l'histoire de la peinture. Et la photographie, qu'est-ce que c'est que la photographie? Bien sûr, c'est une image technique, c'est une image qui passe par un appareil. Mais en même temps, quelle coïncidence de retrouver, vous rendez compte, le sphère de Turin avec la résurrection photographique. La photographie, c'est une résurrection. C'est-à-dire que c'est une image qui n'a pas besoin d'être reproduite. C'est une image qui n'est pas représentée, la photographie. C'est une image qui est d'elle-même ce que vous êtes.
Alors comment expliquez-vous dans ce cas la démarche de certains artistes contemporains? Je pense notamment à Chuck Close, qui, lui, au contraire, se donne pour tâche de peindre de manière la plus réaliste possible son propre autoportrait tel qu'il a été pris en photo. Quand on regarde un autoportrait de Chuck Close, ils sont d'ailleurs imprimés en très très grande dimension, en très très grande dimension, on a vraiment l'impression d'avoir une photo en face des yeux. Et tout le travail de cet artiste consiste à reproduire le pigment de la photo de la manière la plus réaliste possible jusqu'à créer un trompe-l'œil, en vérité. Donc, comment comprendre cette démarche si, d'après ce que vous dites, la photographie est-ce qu'il est le mieux à même de saisir le moi et la réalité en tant que telle?
Je ne dis pas tout à fait ça. Je ne dis pas que la photographie est ce qui est le mieux à même, parce que, certes, la photographie produit des images qui sont des images d'appareil. Bon. Je dis simplement qu'elle a sa programmation à elle. C'est-à-dire qu'on ne peut lui demander que ce qu'elle peut. Et de ce point de vue-là, à la peinture aussi, on ne peut demander que ce qu'elle peut. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas de dire que la photographie a destitué la peinture ou qu'elle l'a reléguée parmi les vieilles lunes. Ce qui est intéressant, et un grand artiste comme Richter le montre aussi à sa manière, c'est ce que la photographie et la peinture ont à se dire. C'est-à-dire, c'est ce qui, en ce qui concerne la question de la figuration, ou si on veut au sens très large du terme, la question de l'image et de la représentation, ce que la peinture et la photographie, éventuellement en se pastichant l'une l'autre, peuvent s'apprendre réciproquement. Et je crois que les démarches de nombre d'artistes d'aujourd'hui, on pourrait en citer bien d'autres, sont justement de telles démarches qui visent en quelque sorte à regarder dans la peinture ce qu'il y a déjà de photographique. La peinture est immémorialement photographique. Il n'y a qu'à regarder les fameux autoportraits du Fayoum. Il n'y a qu'à regarder sa définition même par les Grecs. La peinture est appelée par les Grecs zoographia. Ça veut dire étymologiquement inscription, graphie, graphe du vivant. Et ben, la photo aussi, c'est une zoographia. Et vous retrouvez dans la peinture et dans la photographie, qui plus est, la même tension constitutive. C'est-à-dire que les deux se définissent du vivant. Je photographie ma mère, je photographie mon fils, je peins le portrait de mon cousin. Les deux se définissent donc du vivant, zone, au sens le plus large du terme, mais en l'inscrivant, elle le mortifie, au sens propre du terme. C'est-à-dire que, comme Roland Barthes l'a dit, c'est la fameuse phrase de la Jambe claire, ce qui est au bout, finalement, de la peinture, c'est la mort. De la peinture, de la photographie, mais on peut le dire aussi de la peinture. C'est-à-dire que ce qui est représenté là, sous une forme ou sous une autre, c'est ce qui a été ou c'est ce qui n'est plus, ou c'est ce qui a vocation à ne plus être, c'est l'effigie.
Et pourtant, dans les deux cas, dans le cas de la photographie et dans le cas de la peinture, on a affaire à deux formes de temporalité extrêmement différentes, ce qui est très important en ce qui concerne le sujet dont nous parlons aujourd'hui, donc le moi et la figuration du moi dans l'autoportrait, puisque dans un cas, dans le cas de la photographie, le moi est saisi de manière subreptice, par instant, dans une quasi-immédiateté de l'instant, alors que dans le cas de la peinture, il est le fruit d'un travail extrêmement long qui demande à déployer toute une palette, justement, c'est qu'à le dire, de qualité, de virtuosité, de reproduction, de choix, de couleurs. On a là deux temporalités complètement différentes qui permettent sans doute de saisir deux facettes, deux façons, de modes d'apparaître différents du moi. Et en cela, on peut comprendre peut-être la démarche de Chuck Close dont je parlais tout à l'heure comme étant une volonté d'assembler l'instantanéité de la photographie à la temporalité, au temps long de la peinture, voilà, à la durée, de manière à ressaisir le moi dans sa totalité, dans sa dimension la plus complète possible.
C'est vrai, mais en même temps, je pense que chaque médium est capable de faire un pas vers l'autre. C'est-à-dire que la touche en peinture, c'est de l'instant. Vous avez en réalité allégué la très grande différence entre l'analogique et le numérique. L'analogique, ça suppose de la durée, ça suppose du temps, ça suppose des reports. Ça suppose presque ce que les peintres naguère appelaient une mise au carreau. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de reporter chaque point du modèle dans sa représentation. Mais en même temps, ça suppose aussi, ça implique d'abord qu'on ait en vue une représentation. Or, aujourd'hui, la peinture n'est plus du tout assujettie à une volonté représentative. Et je disais que la touche était peut-être en peinture ce qui restitue l'instant photographique. Mais inversement ou symétriquement, une photographie, ça se retouche. Ne parlons même pas du cinéma. Le cinéma, il n'est jamais monté ad vitam aeternam. On peut refaire des montages cinématographiques, on peut reprendre un film. On ne le fait pas nécessairement, mais le film est indéfiniment perfectible, comme le montrait Walter Benjamin. Donc, dans les deux cas, il peut y avoir et de l'instant et de la durée. Moi, je suis très sensible au fait que les médias ne s'entrechassent pas, les médiums ou les médias ne s'entrechassent pas, mais ils ne cessent pas de se cumuler et de s'enrichir, de s'apporter les uns les autres des aspects, des caractéristiques qu'ils n'avaient pas jusqu'ici suffisamment explorées chez eux.
Mais la question du moi se repose à nouveau frais dans ce que vous venez de dire, puisque quand même, si on fait du moi ce qui se situe au cœur même de la démarche artistique, et donc ce qui fait qu'un artiste va se mettre à créer à un moment donné, quelle que soit la forme, quel que soit le sujet, qu'il y a toujours du moi qui précède la volonté de création, hein, que celle-ci soit consciente ou non, alors comment ressaisir de manière la plus réaliste et la plus véridique possible ce fantôme du moi qui transparaît dans l'œuvre, que ce soit dans des films, dans des photographies ou dans la peinture, et même quand l'objet créatif en tant que tel porte sur un autre sujet que le moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que finalement, peut-on parler d'œuvre d'art sans parler du moi, sans parler du moi de l'artiste ? Et est-ce que finalement, lorsque l'artiste le prend comme objet privilégié, comme dans le cas de l'autoportrait, est-ce que finalement, là, il ne parle pas d'autre chose ? Est-ce que le moi n'est pas présent là où on ne l'attend pas ?
Oui, mais l'inverse est aussi vrai. Je dois quand même citer cet adage, je ne le citerai pas en italien, mais c'est un adage des peintres italiens, « Tout peintre se peint lui-même ». Mais cet adage-là ne signifie pas, d'abord, semble-t-il, que l'objet par privilège de l'art pour un peintre, ce soit de se peindre lui-même. L'adage signifie que, quoi qu'il peigne, tout peintre se peint soi-même. C'est-à-dire que la vision qu'il donne du motif de son travail pictural, cette vision, c'est lui. Hein ? Alors, là encore, il ne faudrait pas tomber dans la généralité, il ne faudrait pas sortir de la représentation, je crois qu'il faut sortir de la représentation. Il ne faudrait pas sortir de la représentation pour tomber dans l'expression. Je pense que l'expression, c'est une sorte de représentation, plus affective ou plus lyrique. Mais ce n'est pas ça le problème. Là encore, je fais allusion à un texte de Bergson. Il se trouve que je viens de relire quelques textes de Bergson qui sont épars et rares sur l'art et sur l'esthétique dans toute l'œuvre de Bergson, mais qui sont d'une très grande justesse. Bergson dit que le but d'un artiste, ce n'est pas d'exprimer, c'est d'imprimer des émotions et des sensations par une sorte d'état semi-hypnotique dans l'âme ou dans l'esprit des regardeurs ou des auditeurs. C'est imprimé. Bien, je crois que c'est d'ailleurs cette impression qui retrouve le caractère matériel dont je parlais, le caractère charnel, le caractère temporel du moi. Le moi, c'est de la durée. Von Bergson vient ici à mon secours. Le moi, c'est de la durée, c'est-à-dire quelque chose d'éminemment sensible, d'éminemment qualitatif, d'éminemment matériel. C'est pas de la forme. Toutes les fois qu'un artiste vise de manière délibérée, calculée, une forme qui est déjà représentée avant même d'être réalisée, vous pouvez être à peu près sûr qu'il se plante. Je crois que la volonté, il faut qu'il y ait une volonté, attention, il faut qu'il y ait un désir et une volonté. Mais cette volonté ne signifie pas l'exactitude et l'antériorité d'une représentation exacte.
André Malraux écrit dans son ouvrage intitulé « L'irréel » ceci. « Ce qui l'entoure croit que ses yeux pièges fixent les apparences les plus secrètes. Il sait, lui, qu'il peint pour tout délivrer de la terre. » D'où ces 60 portraits qui tantôt le représentent et tantôt détachent ostensiblement son visage de la vie sur terre, jusqu'à ceux où semble l'obséder l'énigme par lequel un visage éphémère devient, sans se perdre, autre chose que lui-même. La communauté que Rembrandt poursuit dans tous ses chefs-d'œuvre, dès qu'ils sont distraits de la pitié, est une communion avec l'inconnu. Michel Guérin, lorsqu'il écrit ceci, donc l'énigme par lequel un visage éphémère devient sans se perdre autre chose que lui-même, il montre bien que la façon dont le moi est ressaisi est un moi non seulement temporel et éphémère par définition, mais un moi changeant qui n'est pas assignable à une identité fixe. Et on n'a pas encore prononcé ce terme vraiment d'identité. Oui. C'est ce que semblent montrer les 60, en fait, Malraux parle de 60 portraits, autoportraits de Rembrandt, entre 60 et 100, on va dire, voilà, il y a quasiment une centaine.
Je pense qu'il parle de la peinture.
C'est non pas, peut-être plus que la question du moi en tant que tel, c'est la question du changement qui est ressaisi. C'est le thème même du changement qui est ressaisi dans ces autoportraits. C'est ce que vous dites quand vous insistez sur le caractère de la durée, la chair qui surplombe la forme, et donc qui montre qui est la marque de la temporalité en tant que telle. Et on en revient à cet effarement dont vous parlez, l'étonnement, l'effarement face au monde. C'est le changement qui est ressaisi. Rembrandt ne peut pas se peindre lui-même pour essayer de se ressaisir, mais pour essayer, par touche, de pointer le temps qui passe et le temps qu'il ne peut pas figer.
Absolument. Et toute la question, et c'est ça sans doute que Malraux appelle l'inconnu, toute la question est de savoir comment l'éphémère, puisque nous sommes dans la précarité, dans la vulnérabilité, dès qu'il y a chair, dès qu'il y a désir, dès qu'il y a sensibilité, dès qu'il y a amour, quelle que soit sa forme, que ce soit Eros ou Agapé, que ce soit l'amour, captatif, l'amour qui recherche une proie sexuelle, ou que ce soit l'amour tendresse, ce que les chrétiens appellent l'agapé, dans tous les cas, on est dans la vulnérabilité de la chair. Et par là même, on est en effet dans la durée, on est dans le temps, on est exposé au temps. C'est quelque chose qui est tout à fait frappant aussi comme tonalité dans les autoportraits, peut-être pas seulement dans ceux de Rembrandt, c'est l'exposition. Au sens où on est exposé non pas simplement à la vue, comme quand on va voir une exposition, mais exposé au risque. Il n'y a pas d'exposition sans risque. Un des autoportraits qui m'émeut énormément parce qu'il a un petit peu cette tonalité de fragilité, de précarité, et en même temps de, je dirais, de, le mot souveraineté ne conviendrait pas, il serait même antinomique, mais c'est un petit peu ça quand même. Celui qui est au-dessus de ça, c'est l'autoportrait de Chardin.
À l'abat-jour vert.
Voilà.
Donc c'est l'autoportrait de Chardin qui est voilà,
l'orgnon sur le bout du nez.
Qui semble avoir une visière verte
voilà,
au-dessus de la tête,
qui a son ruban, vous savez, sur le haut du crâne.
Et on dirait une vieille dame en réalité.
Dirait une vieille dame, on dirait le vieil intello qui en a vu de toutes les couleurs, c'est le cas de le dire, et qui est en même temps, je reprends mon expression triviale en lui donnant évidemment une signification un petit peu différente, en même temps qui est au-dessus de ça, c'est-à-dire qui règne par-dessus tout ça. Quelqu'un qui a dominé l'apparence. Je crois que il y a, je reviens maintenant à Rembrandt à propos de ce thème de l'apparence, il y a, vous signaliez tout à l'heure qu'il y avait au fond deux Rembrandts, c'est-à-dire un Rembrandt de la gloriole, un Rembrandt où l'apparence est je dirais, est faite de damas, de chamarrures, d'or, etc., d'œuvres d'art achetées, et puis un Rembrandt du dépouillement. Ben, c'est la même apparence, simplement d'un côté elle est magnifiée, d'un autre côté elle est sapée. Il la prend par les deux bouts. Rembrandt, je reprends Malraux parle d'inconnu, je dirais que Rembrandt, c'est un tragique de l'apparence. Ce n'est pas un tragique des dieux et du sang, c'est un tragique de l'apparence.
Attente, attention, respect, regard, c'est le même registre. Il s'agit de sauver l'apparence, ce qui ne veut pas dire composer une façade, mais tout à l'inverse, s'efforcer de capter ce qui fait le prix du paraître, sa vulnérabilité.
Time.
Michel Guérin, il va être 10h50 bientôt, ce qui est normalement l'heure à laquelle on retrouve François Nudelman pour le journal de la philosophie, mais exceptionnellement, nous avons un problème technique qui nous empêche de diffuser cet entretien, pour l'instant en tout cas, ce qui nous donne l'occasion de continuer notre discussion.
Et j'aimerais
qu'on reparte de cette idée du... D'ailleurs, non, pas qu'on en reparte, puisque nous n'en avons pas encore parlé, mais elle est présente au sein de votre livre, sur cette importance du regard, puisque quand même, on parle d'un visage, très serré. Et d'ailleurs, Rembrandt, la particularité de ces autoportraits, notamment de celui dont vous parlez dans votre livre, est d'être composé d'un plan très serré. On ne voit que le visage, on ne voit même pas le buste, il n'y a même pas d'arrière-fond. Et vous dites ce que Rembrandt peint, c'est l'acte de regarder. Et vous dites même dans le texte que j'avais lu en tout début d'émission que le regard, ce n'est pas seulement dans les yeux, c'est tout le visage, tout la naissance du cou et même le chapeau qui nous regarde. Et donc sur cette importance du regard-là, peut-être c'est une autre facette qui nous permet de ressaisir cette question du moi. On a parlé de la temporalité, de la durée, mais il y a également le regard.
Et Dieu sait que c'est important, surtout chez Rembrandt. Le regard que vous venez d'évoquer, qui se confond avec la peinture, qui n'est pas simplement le fait des yeux. Regarder, ce n'est pas seulement percevoir. Ce regard-là, il nimbe l'ensemble de la peinture, l'ensemble de l'autoportrait. L'autoportrait, c'est pas seulement le visage, c'est aussi, dans le cas de l'autoportrait de 1657, c'est aussi la robe, cette robe bistre, rouge, fermée jusqu'en haut, avec ce petit col, et puis où on voit cette massivité de Rembrandt d'autant mieux paraître. C'est tout ça, le regard. C'est un regard dans la peinture, c'est ça que j'appelle le regard immanent. Le regard transcendant, ce serait le regard traversier, vous savez, le regard cavalier, ce serait le regard de la perspective. La perspective, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on passe au travers, ça veut dire qu'on va vite à ce qui nous importe, à ce qui nous intéresse, et qu'on détache parmi toutes choses. Alors que ce qui fait le regard immanent, c'est un regard, j'oserais pas l'appeler vague, parce que je donnerais à penser que le vague est presque toujours pris en mauvaise part, mais là, en l'espèce, je veux dire que ce serait un regard qui s'élargirait, voilà. Il y a une largeur du regard, il y a une tendresse du regard, et la largeur et la tendresse, ça reprend les caractéristiques du moi dont nous parlions tout à l'heure. Il y a une générosité du regard. Regarder un être, c'est le laisser être, c'est plus que le laisser être, c'est l'amener, c'est l'inviter, c'est lui offrir de s'épanouir sous nos yeux. Il y a une épiphanie du regard. Et ça va beaucoup plus loin que la perception, vous voyez. La perception, c'est en réalité, trouve son école ultime dans la perspective. La perspective, c'est l'essence de la perception. C'est-à-dire, c'est voir ce qui est près, moins bien ce qui est loin, et voir ce qui est près sur le fond de ce qui est loin, sur le fond d'un horizon, d'un arrière-plan. Tandis que, vous l'avez aussi souligné, dans les autoportraits, dans les grands autoportraits de Rembrandt, il n'y a pas de fond, ou plutôt le fond se confond avec le buste, avec la partie du buste qui est montrée, et avec le visage ou avec le chapeau. Tout ça est fondu, tout ça est mêlé. C'est ça le regard.
Mais vous dites tout cela est fondu, tout ça est mêlé. Est-ce que ce n'est pas une manière de signifier le fait que dans les autoportraits de Rembrandt et de Parr, cette immanence du regard dont vous parlez, nous n'avons plus la séparation entre un sujet et un objet, entre un artiste qui
Exactement.
Peint et un sujet qui est peint.
C'est ça.
Et donc vous parlez de la destitution du sujet, on peut aussi le comprendre comme ça.
Bien
Il y a une abolition de la frontière entre le sujet et l'objet, ce qui nous conduit à un philosophe dont nous n'avons pas encore parlé, qui est Merleau-Ponty. S'il y a un penseur de cette abolition de la frontière entre le sujet et l'objet, entre le subjectif et l'objectif, c'est bien Merleau-Ponty, ce qui est d'ailleurs déjà évoqué de par l'importance de la chair dont vous parlez. Peut-être... est-ce que vous accepteriez cette filiation, peut-être le regard que vous posez vous-même sur l'œuvre de Rembrandt est une forme de phénoménologie du regard lui-même?
Oui, je me sens pas nécessairement dans la filiation de la phénoménologie et de Merleau-Ponty, même si j'ai la plus grande admiration et estime pour Merleau-Ponty que j'ai beaucoup lu lorsque j'étais plus jeune. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne la thématique de la chair, je me retrouve très proche de Merleau-Ponty. Ce qui m'en sépare, c'est cette idée de foi perceptive. Je pense que le problème n'est pas... Vous savez, avec Rembrandt, on n'est pas dans les phénomènes, on est dans les apparences. Je suis trop sensible, peut-être aussi en tant qu'esthéticien, à la question du paraître et des apparences pour faire beaucoup confiance aux phénomènes. Et de ce point de vue-là, je me sentirais plus proche éventuellement de quelqu'un comme Schopenhauer, c'est-à-dire un phénoménisme un peu tragique. Dans le cas de Rembrandt, il est, à mon avis, tragique, ou Shakespeare aussi. C'est-à-dire le caractère un peu de confusion ultime entre le rêve et la réalité. Parfois, nous ne savons pas si nous rêvons ou si nous sommes dans la réalité. En allant jusqu'au bout de la réalité, nous trouvons le rêve, mais aussi sans doute réciproquement. Moi, je suis très sensible au caractère d'oniromancie, au caractère un peu hallucinatoire, un peu hypnotique de notre existence, alors que les phénoménologues sont persuadés qu'il y a une essence du phénomène. C'est ça qui me séparerait de Merleau-Ponty.
Vers la fin de sa vie, Rembrandt devient bon. Soit qu'elle le rétracte, le brise ou le masque, entre le monde, la méchanceté fait écran. La méchanceté met toute forme d'agressivité, tout ce que nous nommons traits de caractère, nos humeurs, nos désirs, l'érotisme et les vanités. Crève donc l'écran pour voir s'approcher le monde, mais cette bonté, ou si l'on veut, détachement, il ne l'avait pas recherchée pour observer une règle morale, ni religieuse, ni pour gagner quelques vertus. S'il fait passer au feu ce qu'on peut nommer ses caractères, c'est afin d'avoir du monde une vision plus pure et faire une œuvre plus juste. Je suppose qu'au fond, il se foutait d'être bon ou méchant, coléreux ou patient, rapace ou généreux. Il fallait n'être plus qu'un regard et une main. De surcroît, et par ce chemin égoïste, il devait gagner, quel mot, cette sorte de pureté si évidente dans son dernier portrait qu'elle en était presque blessante. Mais c'est bien par le chemin étroit de la peinture qu'il y arrive. C'est Jean Genet, dans ses œuvres complètes, qui écrit ce texte sur Rembrandt Michel Guérin. Il est intéressant de remarquer qu'il parle à la fois du regard, mais de la main. Il dit « il fallait n'être plus qu'un regard et une main pour atteindre, dit-il, à cette sorte de pureté qui devient si évidente qu'elle en est blessante ». Il est étrange de voir comme ça réintroduite cette dimension morale. Hein. Il dit « vers la fin de sa vie, Rembrandt devint bon, même si ce n'est pas pour devenir bon ». Il y a quand même cette dimension proprement morale qui semble, selon Jean Genet, éclairer l'œuvre même de Rembrandt.
Oui, mais en même temps, vous avez vu les mots qu'emploie Jean Genet, je me sens très proche de ce texte. Le terme de détachement, le terme de vision plus pure. On retrouve, alors, est-ce que c'est de la morale ou de l'éthique? Je n'en sais rien. Je pense que cette bonté, c'est en réalité la générosité de Rembrandt. Et cette générosité, c'est aussi, je vais employer un terme, qui, à mon avis, est sous-jacent dans le texte de Jean Genet, qui est le terme de piété, que j'emprunterai en particulier à Goethe. Qu'est-ce que c'est que la piété, Frömmigkeit? On trouve ça notamment dans la dernière grande élégie de Marienbad de Goethe. La piété, ce n'est pas nécessairement le fait de prier les dieux, d'être un bon fidèle. La piété, c'est la capacité d'assentir ou de consentir à l'existence, en montrant une sorte de gratitude pour le simple fait d'être et même éventuellement d'avoir été. Et je crois qu'il y a cette générosité-là chez Rembrandt, qui est une générosité d'enfance. Vous savez, l'enfant est immortel. L'enfant, Freud le dit aussi à sa manière, l'enfant ne pose pas la mort. Eh bien, je crois que ce Rembrandt, d'au-delà les apparences, d'une certaine façon, ne pose plus la mort parce qu'il a déjà consenti à tout.
Merci beaucoup Michel Guérin d'être venu nous parler de Rembrandt et d'avoir ouvert cette semaine sur le mois. Je rappelle que suite à un incident technique, nous n'avons pas pu diffuser l'entretien de François Nudelman du journal de la philosophie, donc nous avons prolongé notre discussion. De vous Michel Guérin, on peut lire « La peinture effarée, Rembrandt et l'autoportrait » qu'on trouve aux éditions de la Transparence, mais également « Marcel Duchamp, portrait de l'anarchiste » qu'on trouve aux éditions Lucie. Et je renvoie également à un autre livre qui est tout à fait en phase avec le sujet du jour, qui s'appelle « Dans l'atelier des artistes », écrit par Yann Blanc et Florence Jaillet, « Les coulisses de la création de Léonard de Vinci » à Jeff Koons, et on trouve ça aux Beaux-Arts éditions, aux excellentes Beaux-Arts éditions, qui publie d'ailleurs également un ouvrage intitulé « L'autoportrait dans l'histoire de l'art » par Stéphane Guégan, Laurence Madeline et Thomas Schlesser. Rendez-vous demain pour la suite de notre semaine consacrée au mois. Demain, je recevrai Elisabeth Roudinesco pour vous parler du mois en psychanalyse entre